La main verte, la nature, les plantes, les fleurs, les cycles de vie des plantes et des fleurs avec Alain Baraton. Mon cher Alain, bonjour.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Il existe plusieurs variétés de riz sauvage.
Comme le riz sauvage d'Amérique, à ne pas confondre avec le riz sauvage du Texas, qui a tellement été exploité dans la nature qu'il a quasiment disparu des terres qui l'ont vu naître. La cueillette excessive n'est pas la seule responsable de sa disparition. La pollution des terres y est aussi pour quelque chose. Alors si certaines variétés de riz sauvage disparaissent, d'autres se déplacent, comme le riz de Mandchourie, qui, là encore, a été si exploité qu'il est devenu exceptionnel d'en trouver dans la nature.
Et c'est dommage, car la plante est très belle, Alain.
Belle et utile, car ses racines ont l'avantage de consolider les berges des rivières et des étangs. En Nouvelle-Zélande, le riz de Mandchourie fut introduit pour orner les jardins, et en particulier les terres humides. Il s'est si bien acclimaté qu'il est maintenant, dans ce pays, devenu envahissant.
Alain, le riz sauvage est-il comestible ?
Il est consommé en Asie comme légume ou céréale. Alors s'il existe de vrais riz sauvages, je viens de les citer, il en existe aussi une espèce dite sauvage qui n'a rien à voir avec les trois précédentes. Le Zizania palustris, c'est son nom, est présent partout en Asie et est considéré comme une mauvaise herbe. Les producteurs asiatiques le savent et ils font tout pour éviter que ces graines se propagent, ce qui aurait pour conséquence, bien sûr, d'appauvrir les récoltes et de compliquer l'entretien des rizières et les travaux de cueillette. La zizanie, son vrai nom, est si redoutée qu'elle est même à l'origine d'une expression célèbre, semer la zizanie.
D'où l'importance de séparer le bon grain de l'ivraie.
Vous citez une parabole de l'Ancien Testament et vous avez raison.
Vous me l'avez soufflé, hein.
Oui. Non. Mais... Car l'ivraie, qui n'est pas un riz sauvage, est aussi appelée zizanie. Une autre plante peut créer un désordre dans le potager, l'Anagallis arvensis, plus connue sous le nom de mouron. Quand on en a dans le jardin, il y a des raisons de s'en faire.
Les questions internet pour Alain Baraton dans la main verte. Jeanne, elle nous écrit « Je viens d'hériter du clivia de ma grand-mère. À quelle fréquence faut-il le rempoter ?»
Inutile de vous poser la question, je pense qu'il n'y aurait pas de réponse si je vous demandais, Pierre, à quoi peut ressembler un clivia. Alors, je ne vous pose pas la question.
Je vous écoute attentivement, j'apprends chaque dimanche, chaque samedi.
Le clivia est une plante très connue des auditeurs qui a de grosses feuilles en forme de lances très épaisses et des fleurs le plus souvent orange. On les voit, ce sont de grandes clochettes orange. Le clivia est une plante qui adore être à l'étroit dans son pot. Donc inutile de se précipiter pour le rempoter. Si vous le rempotez, la plante ne fait pas de fleurs. Autre précision également, elle a besoin d'une lumière tamisée parce qu'elle déteste les rayons directs du soleil. Mais attention, qui dit absence de rayons de soleil ne veut pas dire obscurité. Donc pour que votre clivia fleurissent, il lui faut une terre humide mais sans excès, une luminosité importante mais sans de soleil direct et surtout éviter de le rempoter tous les ans.
À la Baraton, Simone vous pose cette question. Est-il possible en ce moment de semer du gazon ?
D'après vous, Madame Martin, est-il possible en ce moment d'en semer ?
Possible, oui, mais est-il opportun de le faire ? C'est ça la question.
Voilà ce que l'on appelle le bon sens jardinier.
Quelle réponse !
C'est merveilleux. Alors, il y a deux façons de répondre. Si vous avez la chance d'avoir une petite terre en ville, un jardin protégé du vent froid, du gel, oui, il est possible de semer du gazon, mais il se développera avec beaucoup de lenteur. Ne vous attendez pas à des exploits. N'oubliez pas non plus que si vous semez du gazon, cela veut dire que vous semez des graines et que les petits oiseaux, à une époque de l'année où la nourriture manque, peuvent en faire un festin. Si vous habitez maintenant en banlieue, en région, comme on dit, vous remarquez qu'on ne dit plus en province. Pourtant, j'aime bien le terme de province. Quand on parle des provinciaux, je trouve ça plus joli que des régionaux. Enfin, toujours est-il que si vous avez une terre à l'extérieur, dans la France, en France en général, eh bien évitez le semer parce qu'il aura du mal à pousser. Les oiseaux vont se délecter et autant, je crois, attendre le printemps pour vraiment créer un gazon qui soit digne de ce nom.
Et l'odeur du gazon après le passage de la tondeuse.
La première tonde, vous avez raison Pierre,
une des plus belles odeurs qu'on puisse trouver sur cette terre, je trouve.
Non, c'est vrai, cela rappelle que la vie a redémarré, mais il est vrai que l'odeur de la terre mouillée quand il a plu, ou l'odeur de la première tonde de gazon, effectivement, eh bien vous dites, ça y est, la nature redémarre, le printemps est là, bientôt l'été, c'est la vie.
Marlène, et quelle est la bonne saison pour déplacer des pivoines herbacées, Alain ?
Maintenant, on peut le faire maintenant en vous rappelant que les pivoines détestent être bousculées. La pivoine est une plante... Vous imaginez, Pierre, qu'un pied de pivoine a une espérance de vie dans un jardin, si la plante est heureuse, 100 ans. Elle est capable de vivre pendant 100 ans et de donner des fleurs qui, pour ce qui me concerne, sont les plus belles fleurs sur la planète. Je pense, Patricia, qu'un bouquet de pivoine vous fait craquer.
Ah bah oui, en esprit, parce que les vôtres, je les attends toujours.
Mais elles vont venir bientôt, je vous le promets, à la saison, bien évidemment. Donc, on peut effectivement déplacer les pivoines, on peut les séparer, mais attention, une pivoine déplacée met souvent plusieurs années avant de refleurir. Donc, c'est normal, on ne s'inquiète pas, mais ce n'est pas forcément conseillé si vous adorez les fleurs abondantes.
Nicole, puis-je faire élaguer mon albizia qui cogne sur les tuiles de notre maison les jours de grand vent? Je ne connais pas son âge car nous venons d'acheter cette maison.
L'albizia, c'est une très jolie plante qui a, pour faire simple, des petites feuilles découpées et comme des fleurs de mimosa, mais bleues ou roses. C'est une plante relativement précieuse. C'est un arbre de petite dimension qui grandit doucement, qui a une espérance de vie qui n'est pas exceptionnelle. Donc l'arbre est peut-être très ancien. Et je rappelle que couper brutalement un arbre ancien est toujours une mauvaise chose. Donc oui, on peut couper la branche si elle frotte la toiture de la maison, parce que la branche va maintenant dégrader la toiture et se dégrader elle-même. Donc on le fera. Mais il faut toujours éviter d'avoir à couper une branche de section importante. Faites-le au fur et à mesure. N'attendez pas, par exemple, une métaphore d'avoir les cheveux en bas du dos quand on est un homme pour aller chez le coiffeur. Autant, si vous souhaitez avoir une coupe réglementaire, je parle vis-à-vis de moi, bien évidemment,
oui.
Autant y aller souvent.
La coupe réglementaire, ça c'est rigolo.
Ben oui, parce que je pensais à votre merveilleuse chronique d'hier sur le langage militaire.
Oui, ça me rappelle l'époque des censeurs au lycée dans les années 60, lorsqu'on se coiffait comme les Beatles. Eh bien, moi, j'ai le souvenir d'un censeur qui nous arrêtait et qui nous envoyait directement chez le coiffeur parce qu'on avait les cheveux trop longs, parce qu'on voulait ressembler aux Beatles.
Parce que ça faisait voyou à l'époque.
Oui, tout à fait. Armel, quelle parenthèse.
Oui, mais c'est justement, Pierre, vous faites bien de faire une parenthèse. Parce que le jardin, c'est cela. Le jardin, c'est l'occasion de parler de la vie, de la pluie, du beau temps, de tout. Le jardin est un lieu de conversation et de détente. Et je rappelle que le premier inventeur de réseau social, ce n'est pas Facebook, c'est l'inventeur du banc.
Oh que c'est bien dit. Armel, nous avons fait pousser des tomates sous d'immenses pins, mais le rendement a été minime. On se dit que la terre doit être acide. Que faire ?
Elle l'est très certainement, parce que les aiguilles, en se décomposant, acidifient la terre. Mais surtout, les pins sont énormes, ils ont des racines énormes. Et que se passe-t-il ? Dès qu'il pleut, toute l'eau va pour les pins. Avant que les petites tomates aient eu le temps de récolter quoi que ce soit, il n'y a plus d'eau. Non, les tomates sont des plantes originaires d'Amérique du Sud. Elles ont besoin d'une terre adaptée, de plein soleil et d'une eau normale sans excès. Donc, on ne plante pas, en général, des pieds de tomates sous les pins. Parce qu'on va droit à la catastrophe.
Il nous reste 40 secondes. Alain, est-il judicieux, c'est Pierre qui pose la question, est-il judicieux de broyer des pieds de tomates qui ont eu un peu de mildiou pour les répartir sur le sol ou les placer dans le compost? C'est technique ça.
Oui, mais si vous souhaitez que l'an prochain, tous vos pieds de tomates aient le mildiou, faites ça, surtout pas. Les pieds de tomates terminent sur le tas de compost, on remue tout ça, logiquement la maladie disparaît. Et si on n'a pas de compost, on les évacue en déchetterie, mais on ne met surtout pas dans un potager des pieds de tomates qui ont eu le mildiou pour éviter que la maladie ne se propage. J'en profite.
Une balade?
Oui, aujourd'hui, Alain. C'est aujourd'hui. Parc Floral de Paris, 500 nuances d'orchidées, exposition et vente, les plus belles orchidées à floraison automnale, c'est maintenant et c'est à Paris.
Y compris l'orchidée noire?
Oh, certainement.
Alain Baraton, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer.
Plaisir.
À bientôt.
Plaisir partagé, Pierre.